Et pour ce matin, on va mettre mon petit PowerPoint. Est-ce que l'écran fonctionne ici en avant? OK, je le vois pas sur l'écran ici. Est-ce que je peux venir régler ça? Juste pour pas que j'aille me retourner constamment. Alors, à quoi ça vous fait penser l'image de ce que vous voyez, vous, à la maison, qui est sur l'écran derrière moi? Ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à de la lutte? À un combat? Eh bien oui, c'est en plein ça. Et le thème, c'est le combat de toute une vie. Alors, c'est la suite dans Romains 7, les versets 14 à 25. Quand on pense à combat, on peut penser à toutes sortes de combats. On en vit présentement des combats. Il y en a pour certains le combat de toute leur vie. Ça serait contre le cancer ou contre une maladie comme ça qui est envahissante et dangereuse. D'autres, ça serait un combat par rapport à une situation matrimoniale, par rapport à une situation familiale. Et il y a toutes sortes de combats qui existent. Mais ici, Paul nous parle d'un combat particulier. Et certains, même à travers les années, en lisant les versets 14 à 25, se sont demandés... est-ce que ici c'est le combat de quelqu'un qui n'est pas encore chrétien et qui là veut accepter le Seigneur dans sa vie, ou est-ce que c'est le combat de quelqu'un qui est chrétien mais qui a de la difficulté? Donc Paul ici, quand il parle de son combat qu'il a et qui reflète le combat de toute une vie, qui selon moi s'adresse particulièrement, et tu peux pas vivre autrement dit ce genre de combat là si t'es pas chrétien. Alors Vous connaissez déjà ma compréhension de ces versets. Pour moi, ici, Paul parle de son combat en tant que chrétien. Il est né de nouveau, et déjà dans les versets précédents, il avait parlé de ce changement de régime, de passer de l'union avec Adam à l'union avec Christ, donc du régime de la loi au régime de la grâce, de la foi en Jésus, de cette union en Jésus. Donc pour moi, c'est clair et certain qu'ici, l'apôtre Paul, lorsqu'il décrit ce combat-là, il parle d'un combat spirituel, d'un combat que seul un enfant de Dieu, seul quelqu'un qui est passé de la mort à la vie, qui est passé par la nouvelle naissance spirituelle, peut expérimenter. Et ailleurs, Paul dit ceci dans 2 Timothée 4, 7 et 8, il dit ceci: « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé, c'est-à-dire je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend, c'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. » Et là, ça me fait penser à toute la série que Pasteur Joël amène dans Apocalypse, où on voit cette réalité-là qui s'en vient. Alors oui, il va arriver un jour, oui, il va arriver une fin à tout ce qu'on vit présentement. Et Paul ici dit, je sais que j'ai combattu le bon combat. N'est-ce pas le désir de tout enfant de Dieu de pouvoir dire une telle déclaration vers la fin de sa vie? J'ai combattu le bon combat. J'ai été jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. Je me suis accroché à Jésus. Et dans le chant qu'on a chanté un peu plus tôt, Alléluia, là, ça disait, éprouvé, je tiens. Vous remarquez les paroles? Éprouvé, je tiens. Eh bien, éprouvé, je tiens bon. Éprouvé, je tiens le bon combat. Éprouvé, je lâche pas, je tiens. Et je pourrais dire ceci, éprouvé, je me tiens après celui qui peut m'aider à garder le bon combat. Et même, non seulement je me tiens à celui qui peut me garder pour le bon combat, pour garder le bon combat et remporter la victoire, mais éprouvé, ce qui est encore meilleur, il me tient. Il me tient. Non seulement je le tiens, mais sa pogne à lui est pas mal plus grande que la mienne, est pas mal plus assurée que la mienne. Et ça, c'est la vérité des Écritures. C'est la vérité de la bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est Jésus qui nous tient et il va nous tenir jusqu'à la fin et il va nous emmener à garder le bon combat. Il va nous aider à remporter la victoire. On n'est pas seul dans ce combat-là. Parfois, on se sent seul et parfois, on est découragé. Mais la vérité des Écritures, et on va le voir ici dans ces versets, c'est qu'on n'est pas seul à affronter le combat. Le verbe utilisé par Paul, combattre, est le mot qui se traduit même facilement en français, mais en grec, c'est agonizomai, d'où le mot agoniser. Et comme Jésus a agonisé dans le jardin, comme on a vu pendant le repas du Seigneur, il y a cette idée d'agoniser et même la capsule faisait référence, je crois, à cette idée où Jésus a agonisé dans le jardin. Alors, le combat dont Paul parle est une lutte extrêmement difficile. C'est un combat de tous les jours. C'est une bataille qui semble être sans fin, qui est très exigeante et que donc, humainement, on ne peut pas faire face à un tel combat. Personne n'a ce qu'il faut pour passer à travers un tel combat, une telle agonie. Selon le lexique biblique, The Complete Word Study of the New Testament, il est en anglais, ce mot veut dire affronter, lutter, comme dans Jean 18, 36. Et ça fait référence au combat de la foi, au combat de persévérer au sein de la tentation et de l'opposition. Donc, c'est dans la difficulté, dans l'épreuve, quand ça souffle fort, quand ça c'est difficile, c'est ça ici, cette lutte, ce combat, cet affront dont Paul fait référence. 1 Timothée 6:12. Alors, je vais lire maintenant les versets dans Romains 7, 14 à 25. 14 à 17. « Nous savons en effet que la loi, elle est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » Verset 15. « Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare donc être en accord avec la loi, et qu'elle est bonne. » Verset 17. « Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. » Donc, Paul est en train de parler là, qu'il y a deux réalités auquel je fais face et que je constate dans ce combat-là, maintenant dans cette vie chrétienne dans laquelle je suis, en ayant accepté Jésus comme étant le Messie, le Sauveur du monde, et j'ai cru en lui, et maintenant je suis un disciple de Jésus. Mais je constate cette réalité-là. Il y a comme deux aspects de moi dans lesquels interagit à l'intérieur de moi. Versets 18 à 21. « Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi. » Et là, il précise. Et là, vous allez voir, il y a comme deux moi, il y a comme deux réalités, il y a comme deux pôles, mais en fait, c'est pas deux pôles, mais il y a comme ces deux réalités-là. Et là, il dit, « En moi, dans le sens, dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » Verset 20, « Si je fais ce que je ne veux pas, alors là, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. » Verset 21, « Je trouve dans cette loi pour moi, qui veut faire le bien, le mal est présent à côté de moi. » Verset 22 à 25, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi. » Alors là, quand il parle de ses membres, il parle de sa chair. « Qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, dans ma chair. » Et là, il dit au verset 24, « Malheureux que je suis, mais qui va me délivrer même de ce corps de mort, de cette chair dans laquelle je constate cette réalité-là, pénible et difficile? » Et là, il dit au verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. » Et là, il met en opposition deux réalités. Et là, j'ai quand même monté un petit tableau que je vais vous montrer qui, je pense, nous aide à comprendre cette lutte et cette réalité-là, ou ces deux réalités-là qui existent dans la vie de tout croyant, de tous ceux qui ont vraiment accepté Jésus comme sauveur personnel. Et juste avant d'aller là, juste faire un petit retour bref, très bref sur l'ancien, pas l'ancien, mais le dernier message que j'ai apporté, c'était l'année passée, sur justement Romains 7 à 13, qui était le paradoxe de la loi. Donc, la loi, elle est incapable de me donner la vie et de me sauver. Mais, par contre, elle est très douée à me donner la mort et me séparer de Dieu. Donc, là, on dirait que la loi, pas un cadeau. La loi, elle me nuit. La loi, dans le fond, c'est mon problème. Mais là, où vient en même temps le paradoxe, c'est qu'elle est l'instrument, la même loi qui me donne la mort, et l'instrument entre les mains de l'Esprit pour me conduire à Christ et qu'à travers ça, je puisse recevoir de lui la vie et la réconciliation avec Dieu. Donc, la même loi qui semble me nuire, c'est cette loi-là qui va aussi me conduire à celui qui peut me délivrer de cette loi ou de la condamnation que cette loi entraîne sur moi parce que je suis pécheur. Et donc, je ne peux pas accomplir cette loi à 100% et être accepté par Dieu. Et même là, cette même loi, en union maintenant avec Christ et non plus avec Adam, donc je parle de l'union d'Adam avec l'union avec Christ lors de ma foi en Jésus, de ma conversion, d'accepter Christ comme mon sauveur, elle devient à ce moment-là, dans ma vie, une grande bénédiction. Et là, c'est incroyable comment Dieu change cette dynamique-là de la loi pour que maintenant, elle puisse être une grande bénédiction. Alors, voici le petit tableau que j'ai préparé. Et je l'ai appelé l'emprise de la chair versus l'emprise de l'esprit. Parce que moi, je crois vraiment que c'est ça qui se passe. On voit Paul qui parle qu'il est sous l'emprise de la chair et que sous l'emprise de la chair, parce que la chair a encore un pouvoir sur sa vie, quand il vit cette réalité-là d'être sous l'emprise de la chair, bien là, il constate des choses. Par contre, il parle aussi que lorsqu'il est sous l'emprise de l'esprit, voici ce qui se passe. Et là, on voit le jeu qu'il y a entre les deux, entre être sous l'emprise de la chair versus être sous l'emprise de l'esprit. Et si vous voulez un parallèle de ça, allez lire plus tard, là, Galates chapitre 5, et Paul parle un peu de ses désirs de la chair versus les désirs de l'esprit, de marcher selon l'esprit, non pas selon la chair. Et là, vous en marchant selon l'esprit, bien, on n'accomplira pas les désirs de la chair. Et là, il montre que c'est par l'esprit qu'on va réussir justement à vaincre la chair. Mais en plus, il nous dit en Galates 5 que dans le fond, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et ça, c'est pour nous aider afin qu'on fasse pas les désirs de la chair. Donc, l'esprit est notre allié. L'esprit est là pour venir nous donner la force, la capacité de vivre en nouveauté de vie et donc de ne pas tomber sous l'emprise du péché. Mais on comprend qu'il y a une dynamique là, que c'est pas toujours la réalité, qu'on n'est pas toujours sous l'emprise de l'esprit et que on retombe sous l'emprise de la chair. Et que là, lorsqu'on retombe sous l'emprise de la chair, mais qu'est-ce qui se passe? On est défait, on a de la difficulté à avancer, on vit des choses, on désobéit à Dieu et ainsi de suite. Et là, vous allez voir un peu le tableau. Il y a 12 choses que j'ai pu identifier que Paul nous parle dans Romains 7. Alors, sous l'emprise de la chair, naturellement, Paul, il dit « je suis charnel ». Tandis que sous l'emprise de l'esprit, qu'est-ce qu'il dit? « Je fais pas ce que je veux ». C'est ça que Paul, il dit. Quand je suis sous l'emprise de l'esprit, je fais pas ce que je veux. Ce que je veux, dans le sens de sa chair. OK? Donc là, je n'obéis pas au désir de la chair. Et ça, c'est l'esprit qui me contraint à ne pas aller du côté de la chair. Sous l'emprise de la chair, il dit « je suis vendu au péché ». Pas compliqué. Tandis que sous l'emprise de l'esprit, je hais le mal que je fais. La raison pour laquelle j'aime pas ce que je fais, c'est simplement parce que c'est l'esprit qui agit en moi. Et là, l'esprit qui interagit dans ma vie, dans mon intelligence, dans mon cœur, dans mes pensées, m'amène à ne pas aimer faire ce que la chair me dicte de faire. Comprenez? Et là, naturellement, c'est là qu'on va venir devant Dieu, qu'on va confesser, qu'on va demander au Seigneur de pardon pour le fait justement d'avoir succombé à la tentation. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Alors, sous l'emprise de la chair, il dit, je comprends pas ce que je fais. Et sous l'emprise de l'esprit, il dit, je suis d'accord avec la loi. La loi, elle est bonne, elle est parfaite, elle est sainte, et je l'aime. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit dans son cœur. Sous l'emprise de la chair, le péché réside encore en lui, dans sa chair, il constate ça. Tandis que sous l'emprise de l'esprit, il constate que c'est pas lui qui fait le mal. Donc, c'est l'esprit qui lui permet d'avoir cette compréhension-là. Et là, on voit le jeu qui se passe dans ses pensées et dans son cœur. Sous l'emprise de la chair, il dit, ce qui est bon n'est pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Alors ici, il fait référence à sa chair. Et, sous l'emprise de l'esprit, il dit, je veux faire le bien. Ça, c'est l'esprit qui crée ce désir-là en moi. J'aime faire le bien, je veux faire le bien. Mais je n'aime pas faire le mal. Sous l'emprise de la chair, il est incapable de faire le bien. Donc là, il dit, moi, j'y arrive pas, là. J'ai beau faire des efforts, j'ai beau me discipliner, j'ai beau vouloir me prendre en main. Mais dans mes propres forces, selon l'emprise de ma propre nature, je n'y arrive pas. Tandis que sous l'emprise de l'esprit, je ne veux pas faire le mal. Donc, je veux faire le bien, comme on a vu juste précédemment. Alors là, on voit l'esprit, comment qu'il aide, comment qu'il vient au secours de l'apôtre Paul pour contrer les désirs de la chair ou l'emprise de la chair. Septièmement, et je fais le mal à cause du péché qui habite en moi, dans ma chair, tandis que sous l'emprise de l'esprit, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. Et là, ici, il parle de son moi, sa vraie identité. Parce que sa vraie identité, c'est pas sous l'emprise de la chair, c'est maintenant sous l'emprise de l'esprit. Il est en Christ, il est plus sous Adam. Il est maintenant en union avec Christ. Et ça, c'est sa nouvelle identité. Et non pas ce qu'il était avant de connaître Christ. Même s'il y a encore une réalité, comme il dit, dans ma chair, de cette force, de cette énergie, de ces désirs contradictoires à ceux que je voudrais accomplir étant en Jésus. 8. Le mal est présent à côté de lui, encore là, dans sa chair. C'est la façon qu'il dit qu'il est à côté de lui. Non seulement il est en lui, mais il est comme à côté de lui, dans sa chair. Il désire, par contre, faire le bien. Ça, c'est sous l'emprise de l'esprit. Neuvièmement, la loi du péché qui réside encore dans ses membres, c'est-à-dire sa chair, lutte contre la loi de son intelligence. Alors ici, la loi de son intelligence, et là, vous allez voir, c'est la loi de son intelligence qui lutte contre la loi du péché qui réside encore dans ses membres, sa chair. Et là, Paul fait une distinction entre sa chair, ses membres, son corps, et là, l'idée de son esprit, de son intelligence, qui, elle, est sous l'emprise de l'esprit, et qui, là, lui permet de lutter contre le péché. Dixièmement, sous l'emprise de la chair, Paul dit, je suis captif, je suis esclave du péché qui réside encore dans ma chair, dans mes membres. Tandis que sous l'emprise de l'esprit, il dit, je rends grâce à Dieu que la victoire, la délivrance, la liberté sur la chair est en Christ. Et c'est pour ça qu'il se tourne vers Christ en disant, malheureux que je suis, misérable que je suis. Par contre, grâce soit rendue à Dieu à cause de Jésus qui l'a vient et fait la différence, lui donne la victoire, la délivrance, la liberté. 11, il est malheureux sous la chair, tandis que sous l'emprise de l'esprit, il reconnaît la seigneurie de Christ sur sa vie. Sous l'emprise de la chair, il est esclave de cette chair-là, et là, il a besoin d'en être délivré, tandis que sous l'emprise de l'esprit, il est esclave de la loi de Dieu. Et ça, c'est un esclaveur avec lequel il est heureux, dans le sens que son lien est avec Dieu, qui il est, avec sa loi. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Paul semble parler de différentes sortes de lois dans Romains 7. Il parle de la loi de Dieu, il parle de la loi du péché, ou la loi qui lutte contre la loi de son intelligence, et donc il parle aussi de la loi de son intelligence. Donc ici, il parle de différentes sortes de lois qui semblent interagir ici. Et la loi de Dieu, naturellement, on comprend que c'est la révélation de Dieu sur ce qui est bien et ce qui est mal. C'est Dieu qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pas la société, c'est pas moi, c'est pas ma famille, mes parents, ma culture. Non, c'est Dieu. Dieu définit à ses yeux qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et ça, c'est la norme divine. On le voit au verset 14 et au verset 16 de Romains 7. Et là, il parle aussi de la loi du péché ou de la loi qui lutte contre la loi de son intelligence. Et là, ici, c'est quoi ça? Ben, c'est un principe spirituel qui est comme inviolable, qui nous incite avec force et persistance à faire le mal, à désobéir à la loi de Dieu et à rejeter l'autorité de Dieu sur ma vie. Romains 7, 14. Ça, c'est la loi du péché, c'est la force du péché, c'est cette réalité factuelle que le péché existe et qu'il est encore présent dans ma chair, même pour celui qui est né de Dieu, qui dans un sens a la victoire sur le péché, mais il y a encore cette réalité qu'il est toujours présent en moi. Et là, Paul dit, il est dans ma chair, il est dans mes membres, et il est là, par contre, et il est réel, et il est comme une personne qui m'influence et qui essaie de m'emmener à désobéir à Dieu, à faire le mal et à rejeter l'autorité de Dieu sur ma vie. Et ça, c'est quand on est sous l'emprise de la chair, naturellement. Et vous pouvez imaginer que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, ben lui, c'est la seule réalité qui existe pour lui, c'est cette loi du péché, ou cette loi qui lutte dans sa vie et qui même gagne en tout temps sur lui. Et là, il ne vit pas ce que nous, on vit en tant qu'enfants de Dieu, naturellement. Et là, la troisième loi, c'est la loi de mon intelligence, qui, tout simplement ici, fait opposition à la loi du péché. C'est la nouvelle loi qui, par ma nouvelle nature, 2 Corinthiens 5, 17, on est une nouvelle créature en Christ. Et la puissance du Saint-Esprit, bien, elle agit aussi en moi. Et c'est ça qu'on voit ici, que Paul dit, c'est grâce à cette action de cette loi, de mon intelligence, de cette présence de l'Esprit en moi, de cette nouvelle nature que j'ai, et que maintenant je peux aller à l'encontre de la loi du péché. C'est seulement sous l'emprise de l'Esprit que je peux espérer et même avoir une assurance que je vais avoir des victoires dans ma vie sur le péché qui fait encore rage et qui m'emmène trop souvent à me décourager, à me jeter à terre puis m'emmener encore une fois à faire ce que je ne veux pas faire à cause. Et vous savez, si vous vivez un peu lorsque Paul décrit sous l'emprise de la chair versus sous l'emprise de l'esprit, ben dans un sens, vous pouvez être très heureux, malgré que c'est pas le fun, là. Hein, on n'aime pas ça, vivre cette lutte-là, cette bataille-là, et voir que on pense qu'on est pire qu'on était avant d'accepter le Seigneur, mais c'est à cause de cette emprise de l'Esprit dans ma vie qui là m'emmène à voir mon péché, m'emmène à voir la gravité de mon péché et m'emmène à désirer ne plus pécher et à vouloir vivre selon la volonté de Dieu et en harmonie avec la loi de Dieu. Et là, elle me contraint constamment. Alors, si je fais à ma volonté, eh bien, je perds la joie de l'Esprit. Si je fais la volonté de Dieu, c'est là que j'ai la joie du Seigneur dans mon cœur. Et cette contrainte-là, naturellement, est pour m'inciter à revenir au Seigneur lorsque je m'éloigne et que là, je vis de la tristesse, du découragement, de la défaite et ainsi de suite. Alors, cette nouvelle loi, là, la loi de mon intelligence que Paul parle, elle veut toujours, toujours, toujours faire le bien. Et ne jamais, 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 jamais faire le mal. Au verset 21 du chapitre 7. C'est le nouveau principe divin, moteur, qui est venu faire sa résidence en moi par la présence du Saint-Esprit. Alors, c'est la présence du Saint-Esprit qui emmène cette nouvelle dynamique et qui m'emmène à aller dans cette direction-là qui est toujours vis-à-vis la volonté de Dieu. Faire ce que Dieu aime, désirer ce que Dieu veut, et ainsi de suite. Et là, Galates 5, comme je disais tantôt, est un bel exemple qui montre l'œuvre du Saint-Esprit contre les désirs de la chair. C'est aussi mon nouveau moi, au verset 22 du chapitre 7. Ma vraie identité, là, c'est pas Benoît avant d'accepter Jésus comme sauveur personnel. Non, c'est cette nouvelle identité. Depuis 1976, je suis un enfant de Dieu, je suis né de Dieu, et Dieu a opéré en moi une nouvelle création. Je suis devenu une nouvelle création, et ça, c'est ma nouvelle identité. Et je ne peux pas être heureux à vivre dans mon ancienne identité. Je peux vivre et être heureux seulement dans cette nouvelle identité-là. Et plus je marche dans cette nouvelle identité-là, plus ma joie augmente. Et plus je constate l'œuvre de Dieu dans ma vie, parce que je laisse le Saint-Esprit agir en moi et faire son œuvre et gagner des victoires sur mon ancienne identité ou l'emprise de la chair, comme l'apôtre Paul dit. Je suis aussi, comme dans Galates 2, 20, c'est ma nouvelle identité en Christ. Et Colossiens 3, 10, c'est mon nouvel homme ou ma nouvelle femme, si vous préférez, pour ceux qui veulent s'identifier comme femme aussi, comme moi je suis un homme. Alors, on pourrait dire c'est mon nouvel homme dans le sens, pas masculin, mais dans le sens de ma nouvelle personne, mon nouveau moi. Et ce nouvel homme, cette nouvelle identité, ce nouveau moi aspire à obéir à la loi de Dieu en tout temps et de tout mon cœur. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Lui seul peut faire une telle œuvre, au verset 22. Monsieur MacArthur a une note dans Romains 7, 18. Certains ont la Bible avec les commentaires de Monsieur MacArthur. Alors, je suis allé chercher le commentaire suivant qu'il y a dans cette Bible-là, du verset 18 de Romains 7. La chair, qui dit, c'est autre que le corps physique, cela fait référence à notre humanité non régénérée avec ses désirs corrompus. La chair désigne les mauvais penchants liés aux faiblesses et aux plaisirs corrompus. Elle sert de camp de base à partir duquel le péché opère dans la vie d'un chrétien. La chair est encore sujette à péché et est complètement contaminée. C'est la partie d'un croyant qui n'est pas encore racheté, qui n'a pas été, on pourrait dire, atteint par sa nouvelle naissance. Le seul endroit où le croyant reste vulnérable au péché, c'est la chair. Le cerveau et ses processus de pensée font partie du corps et tentent ainsi notre âme avec leurs mauvais désirs et donc le besoin de renouvellement aussi d'intelligence, comme Romains chapitre 12. Maintenant, les arguments de Paul pour nous aider à choisir le bon combat. Alors, le premier argument, il est déjà là. C'est la loi ne peut pas nous aider à être en bon terme avec Dieu, être justifié. Donc, la loi, c'est pas le bon instrument, c'est pas la bonne façon d'agir ou d'utiliser pour choisir le bon combat. Deuxièmement, la loi ne peut que ruiner ma vie en m'accusant, en nous accusant constamment et en nous condamnant. Romains 5, 20. 7:13. La loi n'est toutefois pas la source du problème, car elle est sainte, juste, bonne et spirituelle. Romains 7:12, Romains 7:14 et Romains 7:16. Donc, on pourrait penser que la loi, c'est le problème. Et que donc, il y en a qui arrivent un peu à une genre de conclusion comme ça, et ils mettent la loi de côté. Mais Paul est clair là-dessus. C'est pas la loi le problème. Mais c'est pas non plus la loi qui est la solution. Ouais, elle n'est pas le problème, mais pas la solution non plus. Là, il dit, et là, la quatrième chose, le péché et la chair sont la source du problème. Et ils se servent de la loi même pour arriver à leur fin. Imaginez-vous, donc, même la loi entre les mains du péché et de la chair devient problématique en nous infligeant la mort et en nous condamnant, Romains 7, les versets 7 à 11 et le verset 13. Donc, la solution, elle est où? Et là, c'est là que Paul essaie de nous emmener. Il veut nous emmener ailleurs, il veut nous emmener vers le nouveau régime. Cinquièmement, la foi en Jésus est le seul moyen pour obtenir le salut, c'est-à-dire la justification et la sanctification, Romains 3, 28. Et avec ça, sixièmement, la stratégie de Dieu, c'est quoi? Ben, c'est de faire en nous, avant de faire son œuvre, c'est-à-dire de faire son œuvre en nous, avant de faire son œuvre à travers nous. Donc, il commence par agir en nous et ensuite, il va agir à travers nous. Romains 7, versets 4 et 6. Et ça, on a vu ça aussi précédemment. Donc, ceux qui aimeraient revoir ou qui n'ont pas entendu la série dans Romains 7, bien, prenez le temps de regarder ça. Je pense que ça vaut la peine. Septièmement, l'œuvre de Dieu en nous consiste à quoi? Bien, à nous faire mourir au régime de la loi, à nous unir à Christ et à nous placer sous le régime nouveau de l'Esprit. Parce que c'est là que ça se passe. Comme on a vu tantôt, c'est sous l'emprise de l'Esprit que là, Dieu peut œuvrer en nous et à travers nous. Romains 7, 6 et 7. Et huitièmement, l'œuvre de Dieu à travers nous consiste à nous libérer du péché et de la chair et de nous faire porter du fruit pour lui en l'aimant et en lui obéissant. Et si on avait vu ça lorsqu'on avait regardé Romains 7, 4. Alors, Paul explique et argumente pour dire que la justification et la sanctification ne sont possibles que par la foi en Jésus, par notre union avec lui et sous le régime nouveau de l'Esprit. Et tout cela est rendu possible grâce à l'œuvre de Dieu en nous. Et ça, c'est sans l'aide de la loi, sans l'observation de la loi. On sait que l'œuvre de l'Esprit va nous emmener à observer la loi, mais ça va être un résultat, un fruit, pas un moyen pour notre sanctification. Le moyen pour notre sanctification, tout comme ça l'est pour notre salut, notre justification, c'est d'être uni à Christ. C'est de laisser le Saint-Esprit venir prendre sa place, nous remplir et là nous emmener à marcher selon l'Esprit. Là, c'est par l'œuvre de Dieu en nous qu'on va pouvoir ensuite agir à travers nous et même être en harmonie avec Dieu et même faire ce que la loi de Dieu demande de plus en plus et pour la gloire de Dieu. Donc, le combat, il est réel. Et peut-être que vous le vivez présentement de plein fouet. Peut-être que vous passez par un temps extrêmement difficile. Peut-être que vous vous demandez, peut-être que si vous êtes vraiment né de Dieu, tellement que vous voyez une réalité en vous qui n'est pas plaisante. Mais premièrement, vous devriez être encouragé ce matin à dire, mais c'est normal. C'est normal que j'aie un combat. C'est normal que je sois déçu, découragé, pas content de moi quand que je fais des choses que je ne veux pas faire. Si vous faites des choses que vous ne voulez pas faire et que vous savez qu'ils sont mal et qui offensent Dieu, mais dites-vous que ça, c'est l'œuvre de l'Esprit en vous. Donc, l'Esprit de Dieu agit en vous présentement. Je trouve ça encourageant. Mais je comprends là qu'on peut être découragé quand on est dans la boîte, là, les deux pieds dedans. Et que là, ça va pas bien puis qu'on en arrache. Peut-être pour vous encourager, il y a eu un temps dans ma vie où j'ai eu un journal. Et là, ici, j'ai un extrait. J'ai retrouvé mon journal à un moment donné. Regarde, on s'est écrit. Là, tu sais, on se rappelle plus que ce qu'on a écrit. Hein? Donc, j'ai ouvert ça, j'étais allé voir ça, puis là, j'en revenais pas. J'ai dit, ben trop. Hein? Ben, mon ami, j'ai vécu ça, moi. Eh bien. Et là, c'est ici, c'est le vendredi, j'avais écrit là, la date, 26 janvier 1990. Donc, moi, je suis arrivé ici en 97. Alors, j'étais à Québec à ce moment-là, un jeune homme, un nouveau marié presque, un jeune papa. Et là, je dis ceci. Je viens de lire quelque chose dans un livre, et là, le titre est malheureusement, je sais même pas s'il est en français, mais en tout cas, à ce moment-là, moi, je l'ai lu en anglais, c'est « Living with your passion ». Alors, vivre avec vos passions. L'auteur, en fait, parlait de la convoitise. Et là, j'ai dit ceci, une citation me touche beaucoup. Il dit, « Habituellement, Et là, je cite l'auteur. Habituellement, au plus profond de notre cœur, il y a un sentiment d'insatisfaction face à soi-même et face à sa vie, que l'on tente de surmonter avec un court moment de plaisir. Et naturellement, plaisir défendu, charnel. Mais on ne réussit pas. La satisfaction recherchée n'est jamais atteinte. Et là, j'ai écrit ceci. Cette citation s'applique beaucoup à moi. J'ai presque peur de trop y songer. Ça, c'est mes mots. Pourquoi ma vie est-elle si difficile à vivre? Il me semble que toute ma vie a été marquée d'événements et de situations difficiles que j'ai choisies. Par exemple, maintenant, je suis dans le ministère et c'est difficile. Les attentes des gens, les exigences du ministère, la comparaison entre pasteurs. Même chose à la maison avec les enfants. Et là, il y en a plusieurs qui doivent s'identifier avec moi présentement, avec les circonstances actuelles. Et là, je rajoute, et la maison constamment à rénover. Est-ce moi? Est-ce la vie elle-même qui est comme ça? J'ai besoin du Seigneur. Comment puis-je être un modèle pour les autres si la vie me semble un fardeau? Et là, ça s'est arrêté là. C'est ce que je vivais. John Owen a écrit un livre qui est traduit en français qui s'appelle « La mortification du péché », c'est-à-dire « Mettre à mort le péché », encore dans la chair, là, dans notre chair. Il dit ceci, et je trouvais ça pertinent. « Malheureusement, certaines âmes sont sous la conviction du péché. » Alors, comme vous voyez, là, moi je l'étais quand j'ai écrit ça en 1990. Elles peinent et travaillent à leur délivrance sans s'apercevoir que leurs efforts contre le péché sont inefficaces. Ces pauvres âmes empruntent des chemins compliqués, se soumettent à de rudes disciplines dans le but de maîtriser le péché, mais en vain, car elles œuvrent, elles font des efforts en dehors de l'Esprit de Dieu, en dehors de sous l'emprise de l'Esprit. Comme on a vu avec l'apôtre Paul. Elles combattent, mais sans remporter de victoire. Elles sont constamment en guerre et ne parviennent jamais à la paix. Et chaque jour, elles retournent à leur esclavage. C'est là la plus triste guerre que nous puissions livrer. La conviction de péché produite par la loi pousse l'âme à lutter contre le péché. Mais celle-ci n'a pas la force de mener ce combat. La chair n'a pas la force de mener ce combat. L'âme lutte, mais elle ne peut jamais rencontrer la victoire. Elle est comme un homme qui se jette sur l'épée de son adversaire dans le but de se faire tuer. La loi la pousse d'un côté et le péché la repousse de l'autre. Quel sort lamentable pour un homme que de déployer tant d'efforts sans jamais pouvoir entrer dans le repos de Dieu. Quel sort lamentable. Alors l'apôtre Paul, heureusement, termine sur une note très positive dans les derniers versets de Romains 7. Lorsqu'il crie son cri de « malheureux que je suis, qui me délivrera? » Et là, sa réponse a été sous l'emprise de l'Esprit. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. » Christ est la réponse. Sous l'emprise de l'Esprit, Dieu veut nous accorder de vivre une autre réalité que celle d'être sous l'emprise de la chair. En conclusion, la clé pour vivre une vie chrétienne victorieuse est de combattre le bon combat, c'est-à-dire celui de la foi en Jésus, pas celui de la chair contre le péché et contre
tout ce qui vient avec les tentations et tout ça.
Et là, comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Bien, en optant pour la stratégie de Dieu qui consiste simplement à le laisser faire son œuvre en nous avant de faire son œuvre à travers nous. Dieu veut simplement avoir la possibilité d'agir comme lui seul est capable d'agir en nous. Mais pour ça, il faut qu'on cède. Il faut qu'on lâche prise. Il faut qu'on se tourne vers lui, un peu comme dans la capsule, qu'on amène à Dieu ce qu'on vit, c'est de la peur, de la colère, peu importe c'est quoi, que là je me présente dans la présence de Dieu et que là je sollicite son aide et son intervention et que je lui demande à mon secours, Seigneur, viens à mon secours, je t'en prie, je éprouvé, je tiens, éprouvé, je me tiens à toi, et éprouvé, je te demande de me tenir et de me donner la victoire. Autrement dit, mourir au régime ancien de la loi, être uni à Christ et vivre sous le régime nouveau de l'Esprit et de la grâce. Ça, c'est le bon combat. Voilà le bon combat de toute une vie que Paul nous parle dans Romains 7, 14 à 25. Vous savez, avec Libération 21, on est avec le livre, justement, « Doux et humble de cœur » qui nous parle de Jésus, de son amour pour les pécheurs et pour les affligés. Et je suis allé tirer quelques citations de son livre et j'aimerais terminer avec ça. Ce matin, on n'aura pas un chant pour terminer, donc on va simplement terminer avec la prière. Mais juste avant d'aller prier, j'aimerais ça vous lire cet extrait du livre de Dane Ortlund, qui est tellement une bénédiction pour le cœur. Il dit ceci, « Laissez Jésus vous attirer à lui par la beauté de son cœur. Ce cœur nous conduit dans les verts pâturages de l'amour ressenti de Dieu. Ce cœur se porte vers les démunis et submerge ceux qui souffrent d'une grande consolation. Cette consolation est celle de savoir que Jésus comprend, que Jésus ressent et que Jésus même partage votre souffrance. C'est l'idée qu'il est là avec nous, les deux pieds dans la boîte pour nous aider à nous sortir de là. Ça, c'est mon petit commentaire personnel. Ce cœur de Jésus est doux et humble. Et là, il dit ceci, « Comment croyez-vous que les aînés dans votre Église, c'est-à-dire ceux qui sont encore là et qui sont plus solides que jamais dans leur foi, alors comment se fait-il qu'ils soient parvenus où ils se trouvent actuellement? Qu'est-ce qui les a amenés à persévérer? Qu'est-ce qui les a amenés à grandir spirituellement? Qu'est-ce qui les a amenés à connaître de plus en plus cette communion intime avec Dieu et de voir des victoires dans leur vie sur le péché et que là, maintenant, ils vivent une vie qui est, disons, plus harmonieuse avec Dieu? Il dit, par exemple, est-ce que c'est la saine doctrine qui les a amenés là? Ah, il dit oui, certes. Est-ce que c'est aussi une ferme obéissance à Dieu? Ah, sans aucun doute. Est-ce que c'est par l'acceptation de souffrir sans devenir cynique? Oui, il dit assurément. Ça en fait partie. Mais c'est aussi pour une autre raison. Et sans doute la plus déterminante. Ils ont été au fil du temps gagnés dans leurs plus profondes affections par un sauveur rempli de douceur. Autrement dit, ils ont goûté quelque chose de Jésus. Et ce quelque chose-là, c'est son cœur, c'est sa douceur, son humilité, son accessibilité, son amour, sa compassion. Il se peut qu'au cours de toutes ces années, ils aient simplement goûté à l'étonnement d'avoir attiré Christ vers eux. Par quoi? Écoutez bien ceci, là. Qu'est-ce qui a attiré Christ vers eux? Leurs nombreux péchés, plutôt que de l'avoir éloigné d'eux. Quoi? Parce que je suis un grand pécheur, j'ai attiré son attention sur moi, parce que je lutte, parce que j'ai des grandes luttes, parce que je voudrais m'en sortir, parce que je crie à Dieu, parce que je souffre, je suis mécontent. J'ai attiré son attention. Et oui, dit l'auteur. Et c'est ce qu'ils ont découvert. Il est possible aussi qu'ils aient non seulement compris avec leur tête, leur intelligence, que Jésus les aimait, mais encore qu'ils l'aient ressenti dans leur cœur, cet amour-là pour eux. Un amour comme, je crois, c'est Yvan qui avait dit qu'il n'y a pas de limite. Il ne peut pas s'empêcher d'aimer. C'est sa vraie nature. Alors, Jésus souhaite que nous, et c'est encore lui qui dit ça, Jésus souhaite que nous puisions de la force dans son amour. Mais les seuls qui en sont capables, les seuls qui sont capables de puiser dans son amour des forces, sont les non-méritants, ayant besoin d'un amour immérité. Il dit par ailleurs, il ne veut pas simplement que nous soyons pardonnés. Pas ça son but ultime, qu'on soit nettoyé de nos péchés. Non, il dit, il nous veut, nous. Il veut que nous soyons à lui, avec lui. Jean 17, 24. Et ça, c'est ce qui motive son cœur. Prions ensemble pour terminer. Alors, Seigneur Jésus, ce matin, on a vu ce combat réel, ce combat qui est présent dans la vie de tout enfant de Dieu. Et Seigneur, toi, tu le comprends, ce combat-là. Tu comprends les hauts et les bas, et tu comprends ceux qui présentement sont peut-être tellement découragés, tellement déçus d'eux-mêmes. Ils s'en veulent, ils se pensent pas bons, ils pensent que tu es même fâché contre eux ou que tu as lancé la serviette avec eux, que il y a rien à faire avec eux. Seigneur, peux-tu par ton Saint-Esprit, justement ce matin, te révéler à eux tel que tu es vraiment et pas selon ce que l'ennemi essaie de leur faire penser ou croire. Que tu les as mis de côté, que tu as lancé la serviette, qui sont des cas désespérés. Non, Seigneur, tu es venu pour eux. Peux-tu les aider ce matin à saisir la grandeur de ton amour? Peux-tu, Seigneur, permettre à ce que quelque chose arrive, peut-être cette semaine, que quelqu'un, par une parole, ou quand ils feront leur lecture, ou peut-être même la lecture du livre, ou quoi que ce soit d'autre, Seigneur, qui est à ta portée, peux-tu venir installer dans leur cœur une lumière d'espoir que c'est toi, Jésus, tu es de leur côté, tu es avec eux, là où ils sont, dans le trou. S'ils sont dans le trou, tu es dans le trou avec eux autres. S'ils sont dans la boîte, tu es dans la boîte avec eux autres. S'ils se sont mis dans la marde, tu es dans la marde avec eux autres, Seigneur. Tu es là où on est. Était là pour nous sortir de là où on est. Qu'on l'ait fait volontairement, par accident, malgré nous, peu importe la situation, Seigneur, toi, tu veux nous emmener là où tu veux nous emmener, c'est-à-dire dans ta lumière, à marcher dans ta lumière, à vivre en nouveauté de vie, à être heureux, à être libéré, à aller de victoire en victoire, Seigneur. C'est ça ton plan. Et tu vas le faire, Seigneur Jésus. Peux-tu venir placer dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur esprit. Cette vérité, que ce que tu as commencé en eux, tu vas le rendre à terme. Tu vas le compléter. Et c'est ça ton engagement envers chacun de tes enfants. Dans ton nom, Jésus, pour ta gloire.